notre réponse à la promesse du Sauveur. Hallelujah. Donc, est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Vous voulez le lever? On va faire une déclaration ensemble. Dis ceci avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce que la parole de Dieu dit à mon sujet. Et je possède tout ce qu'elle affirme. Je peux tout ce qu'elle déclare. Je suis prêt à recevoir l'incorruptible, l'indestructible semence de la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Donc, si vous voulez tourner, vous pouvez lire en Ésaïe chapitre 7, verset 14, quelques 500 ans avant l'avènement de Jésus, le prophète Isaïe a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Certaines traductions disent la Vierge. Que ce soit très clair pour chacun d'entre nous. Si Marie n'était pas vierge, on n'aurait plus jamais rien entendu parler. Parce qu'il y avait d'autres jeunes femmes qui ont eu des enfants. Hello? Amen? Vous êtes d'accord? Amen. Gloire à Dieu. Oui. Lisons ensemble, tournons la page, Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Il dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donnant à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Jean chapitre 1. On va lire donc versets 11 à 14. J'ai choisi une différente traduction. Il s'appelle Ostwald. Il dit que il, parlant de Jésus, est venu chez les siens. Et les siens, j'ai presque dit les chiens, ouais. Excusez-moi pour les ch'tis, mais. Il est venu chez les maintenant ça va. Chez les siens, j'aurais pas dû le dire, n'est-ce pas? Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais écoutez bien, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit d'être fait enfant de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole s'est faite chair, a été faite chair et habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps, ce période de Noël, de relire l'histoire de Noël. Est-ce que quelqu'un l'a lu dernièrement? Alors moi, je vous encourage à relire en Matthieu et en Luc. C'est quelque chose de formidable. Nous allons lire quelques versets, d'accord? En Luc, chapitre 1, versets 5 à 25, parce qu'il y avait des miracles exceptionnels qui sont arrivés pour l'avènement du Seigneur. Et nous voyons que le Seigneur parle à travers ses anges, il parle à un homme, à un autre homme, à une femme. Et je veux que nous regardons leur réponse et que nous décidons comment nous allons répondre à cette promesse d'un sauveur. Amen. Donc nous avons cette première histoire en Luc chapitre 1, verset 5. Il dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zachée, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Vous connaissez cette histoire? Oui. Tous deux étaient juste devant Dieu. Tout le monde dit juste devant Dieu. Alléluia. Oui. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant, qu'il faut savoir, à l'époque, était une honte pour une femme. Oui. C'est une tristesse pour une femme de ne pas donner à son mari des enfants, elle n'a pas pu. Oui. Parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon la tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Donc vous savez, l'Ancien Testament, les hommes et les femmes étaient séparés de Dieu. Et les femmes n'avaient même pas le droit d'entrer dans le temple. Les hommes pouvaient entrer dans le temple et les sacrificateurs pouvaient entrer dans le sein des temples. Mais seulement un homme pouvait entrer dans le sein des saints et il était tiré par le sort parce que sa classe de sacrificateur était, si on veut dire, c'était l'équipe en fonction à ce moment. Il est tiré par le sort et il entre. Donc il faut comprendre qu'il entre avec des clochettes autour de sa robe, avec une corde à son pied, parce que s'ils ont, sans avoir fait toutes les ablutions, sans avoir fait tous les sacrifices corrects, ils pouvaient mourir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme n'avait pas eu ses péchés pardonnés. Le sang des boucs et des agneaux, oui, qui a été sacrifié tous les ans, pouvait seulement couvrir le péché. Et chaque année, il fallait refaire pour se rappeler que le salaire du péché, c'est la mort. Ils étaient en train de prévoir un sacrifice ultime, un sacrifice qui n'avait pas couvert les péchés, mais qu'ils allaient effacer les péchés. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais voulu être enfermé dans un temple, dans un saint des saints. Il voulait vivre avec son peuple. Il nous a créés pour avoir une relation avec nous, d'accord? Donc il faut que nous comprenions un petit peu cela. Donc il entre et il a fait tout le nécessaire pour pouvoir entrer sans mourir. D'accord? Donc il entre et quelque chose d'exceptionnel se passe, d'accord? Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Quelqu'un dit, si je voyais le Seigneur, je lui faire tape 5. Il se peut que si vous voyez le Seigneur, vous tomberez par terre, parce que quand on voit les hommes dans la Bible qui voient les anges, on parle d'anges, pas de Jésus, oui, normalement ils tombent dans la terre, et la première chose que les anges disent, ne vous effrayez pas, ne veut pas que vous ayez une crise cardiaque, d'accord? Parce qu'il vient de la présence sainte de Dieu, ok? Donc un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie, fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparait de lui. Vous imaginez? Ok. Mais l'ange lui dit, un ange dans l'Ancien Testament a tué 186 000 personnes. D'accord? Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, quelqu'un dit-moi, comment on le prend ça? Zacharie, ok, bien, d'accord. Je ne connais pas un Zacharie. Oui. Car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de John. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Quand il sera grand, devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Toutes ces choses sont très importantes. On ne va pas y entrer aujourd'hui, mais c'est vraiment important. Oui. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean avait un appel, un mandat très particulier, n'est-ce pas? C'était de préparer, ouais, l'avènement du Seigneur. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaître-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Il dit, c'est pas possible. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Quelle est notre réponse devant les promesses de Dieu? Mais c'est pas possible. Les médecins m'ont dit, mon banquier me dit. Moi, je dis, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et Gabriel lui dit, vous voulez un signe? Voilà le signe que vous aurez, que ça va s'accomplir. Il aurait pu avoir un signe beaucoup plus facile, vous savez. Parce que ça, si elle va accoucher, il faut 9 mois de grossesse. Oui. Mais il a demandé un signe. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie. Il devait entrer et sortir, mais il est en train de discuter avec un ange. C'est au nom de ceux qui restaient si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et il s'est compris qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, ils sont allés chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça qu'ils avaient eu des relations normales. Oui? Mais avant, il n'y avait pas de bébé. Mais là, il y a un bébé. L'ange l'a dit. Amen. Parce que certains sont tristes dans leur âge, avec l'âge. Ils disent, oui, mais vous savez, ce n'est plus comme avant. Je continue, avant que je me mêle trop. Hein. Elle se cacha pendant 5 mois. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté ce regard sur moi pour ôter de mon opprobre parmi les hommes. Zacharie a entendu qu'il aura un fils. Il a reçu une promesse de Dieu. Il n'a pas cru. Qu'est-ce que vous dites quand Dieu vous donne une promesse? Quelqu'un dit yes. Vous dites yes? Bien. OK, on va continuer l'histoire. Lisons Luc, chapitre 1, versets 26 et 38, et nous allons découvrir quelqu'un autre qui va recevoir une promesse et qui va répondre d'une autre façon. Amen? Ça va? Peut-être vous n'avez pas entendu quand j'ai lu Jean, chapitre 1, mais il dit qu'il est allé chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Est-ce que nous allons le recevoir? Est-ce qu'on va recevoir toutes les promesses de Dieu? Est-ce que ces promesses vont devenir réalité dans notre vie? OK, on lit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. J'ai rencontré les catholiques qui disent, mais vous ne croyez pas en Marie? Non, qu'est-ce que je ne crois pas en Marie? Moi, je crois en Marie. Qu'est-ce que vous croyez en Marie? Moi, je crois que Marie est une vierge. Je crois que Marie a donné naissance à Jésus. Moi, je crois que Marie était à la croix. Je crois que Marie était à la chambre haute et était baptisée du Saint-Esprit. Je dis, moi, je crois en Marie. Ce que je ne fais pas, je ne prie pas Marie. Pourquoi? Parce que je n'ai vu nulle part dans la Bible qui dit prier ni Marie ni une autre femme. Je ne prie pas d'autres hommes non plus. Je prie le Père dans le nom de Jésus. Amen. On a eu un couple qui cherchait un appartement l'autre hier. Oui. Il dit, c'est quoi cette église? C'est quoi? Je dis, mais c'est une église chrétienne. Oui, mais comment chrétien? Je dis, mais chrétien. Il dit, et nous sommes catholiques. Je dis, mais c'est très bien. Il dit, je dis, c'est le même Jésus. Oui, oui, et il est né d'une vierge. Ah oui? Oui, et nous croyons qu'il est mort pour nos pères. Oh, vrai? Vraiment? Et il est ressuscité d'entre nous. Ah! Oh. Il dit, mais je dis, si vous déménagez, si vous venez nous rendre visite, oh oui, on va venir. C'est le même, moi je dis, c'est le même Bible. C'est le même évangile. On n'a pas écrit un autre, n'est-ce pas? Donc, il est allé voir, oui, une vierge, fiancée à un homme, elle s'appelait Marie, d'accord? L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Donc, pour nous, on utilise ce terme aujourd'hui, n'est-ce pas? Que la grâce soit avec toi, le Seigneur est avec toi. Mais ce terme n'était pas du tout utilisé à l'époque, parce que le Seigneur n'était pas avec. Oui, le Seigneur était dans le temple et il fallait monter en temple pour être en règle avec le Seigneur. On priait le Seigneur, mais on n'était pas intime avec le Seigneur. D'accord? Donc quand l'ange lui dit, le Seigneur est avec toi, regarde la réaction, troublé par cette parole. Est-ce que ça vous trouble que je vous dis que le Seigneur est avec toi? Non, c'est normal pour nous, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous avons reçu le Seigneur. Amen? Elle est troublée par cette parole. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as été trouvée grâce devant, tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte. » Donc ça, c'est un peu plus compliqué maintenant. D'accord? Parce qu'elle est fiancée, elle n'a jamais connu un homme. Que ce soit clair, d'accord? Oui. S'il avait connu un homme, oui. Il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas Jésus qui est sans péché, qui peut mourir pour nos péchés. Amen. Et nous devons retourner dans l'Ancien Testament et reprendre les sacrifices des animaux pour couvrir nos péchés. D'accord? Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tout le monde dit Jésus. Je trouve que c'est bon qu'on prononce ce nom. Amen. Hallelujah. Jésus. Il sera grand. Et sera appelé fils du Dieu, non, du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et certaines personnes disent, mais je ne crois pas cela, c'est pas un problème. Quand vous mourrez, vous saurez si c'est vrai ou pas. D'accord? Marie dit à l'ange, donc il y a une discussion ici. Est-ce qu'elle va mettre en question cela? Non, elle va demander comment. Il y a beaucoup plus de différence parce que Zacharie n'a pas cru. Elle croit et dit seulement comment. Il dit comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Elle aurait pu dire, j'ai pas couché avec mon fiancé. Elle aurait pu dire, n'est-ce pas? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Dieu. Wow. Je vous laisse réfléchir un petit peu. C'est vraiment wow, n'est-ce pas? Voici. Parce que quand même, elle est en train de dire, j'ai jamais entendu parler de ça. Non, ça n'est jamais arrivé ni avant ni après. Oui, je sais que certains arrivent et disent, je ne sais pas comment je suis tombé enceinte, mais normalement on peut expliquer, au moins on m'a expliqué ça dans le cours de biologie quand j'avais 11 ans, d'accord, on m'a expliqué comment ça arrive, d'accord. Mais jamais auparavant, jamais après que c'est arrivé, amen, il y a un seul sauveur et seigneur de la vie, il s'appelle Jésus, amen, d'accord. Et l'ange va lui dire, parce qu'il veut augmenter sa foi. Dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Quelque était impossible parce qu'elle était stérile, elle est maintenant âgée, elle a dépassé le temps pour avoir des enfants. Elle dit, voilà, je fais des miracles aujourd'hui. C'est ce que l'ange est en train de dire, n'est-ce pas? Et celle qui est appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous pouvez dire ça avec moi? Car rien n'est impossible à Dieu, sauf, permettez-moi vous dire, si ce n'est pas dans la Bible, vous ne pouvez pas le croire. Parce que moi, j'ai des gens qui disent, oui, mais moi, la Bible dit que rien n'est impossible pour Dieu, donc moi, je crois que quelqu'un va me donner 1 million d'euros. Je dis, oui, mais me montre-moi ça dans la Bible et je peux croire avec vous. Mais je ne vois pas ça dans la Bible. D'accord? Et les gens inventent toutes sortes de choses. Tout ce que Dieu a promis à faire, nous pouvons croire. Amen? Et quelqu'un dit, mais Dieu peut faire tout. Non, Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit qu'il ne peut pas mentir. Amen. Et moi, je dis Hallelujah. Parce que s'il peut mentir, ça veut dire peut-être je ne suis pas sauvé. Et peut-être le sang de Jésus ne suffit pas pour le sacrifice pour mes péchés. Et peut-être il n'y a pas de ciel. Wow. Non, la Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. D'accord? On continue? Tout le monde dit encore que rien n'est impossible à Dieu? Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et Marie répond... Oui, et peut-être une des déclarations le plus fort dans toute la Bible de la part d'un être humain, Marie dit, voici la servante du Seigneur. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, il vous élèvera. Amen. Voici la servante du Seigneur. Oui, nous pouvons suivre l'exemple de Marie. Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et la Bible dit, et l'ange s'éloigna d'elle. Qu'est-ce que vous en pensez? En Jean, on a vu que Jésus est allé chez les siens et les siens n'ont pas reçu. On voit que Zacharie a mis en question la promesse de Dieu et il était muet pendant 9 mois. On voit que Marie dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'était arrivé. Amen. Et nous connaissons la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Quelle est votre réponse? À Jésus. Je vous pose une question. Qu'est-ce que Jésus est-il venu faire? Donc, j'ai mis quelque chose parce qu'il y a énormément de choses. Jésus est venu, et je crois que vous avez entendu cela la semaine passée, que Jésus est venu non pas pour juger, mais pour sauver le monde. Amen? N'est-ce pas merveilleux? L'accusateur de frères, c'est le diable. Il n'a aucun droit de vous parler. Vous lui dites de se taire et de s'en aller. D'accord? Il est venu pour faire la volonté du Père. Ça m'est tellement important parce que j'ignorais, en tant que jeune homme qui a accepté Jésus dans son cœur, qui n'était pas d'une famille chrétienne, qui n'avait jamais compris la Bible, je dis, mais comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu? Et quelqu'un m'a dit, si tu regardes Jésus, tu vois la volonté du Père. Amen? voir comment Dieu, Jésus réagit avec les différentes personnes et vous savez comment Jésus va réagir avec vous. Il est venu nous faire la volonté du Père. Amen. Il est aussi venu pour nous donner la vie et la vie même en abondance. Amen. Alléluia. Donc c'est important, vous allez comprendre où je vais dans un instant. Ok. Il est aussi venu pour nous montrer le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes d'accord? Je pense que c'est important. Est-ce que quelqu'un a besoin de savoir le chemin? Vous voulez savoir où vous devez aller? Beaucoup de jeunes dans notre église, beaucoup d'étudiants. Vous dites, mais je veux savoir où je dois aller. Jésus dit, je suis le chemin. Amen. Il est aussi venu nous montrer le Père. Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Pourquoi? Jésus a dit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Donc, on dit, montre-nous le Père. Et Jésus dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Si nous regardons à Jésus, nous voyons le Père. C'est pourquoi il est venu, pour nous montrer le Père. Et aussi, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et j'avais oublié de mettre ces versets, donc peut-être vous les tournez là, en Luc chapitre 4, 18, et je vais vous dire ce qu'il a dit. Mais il est venu pour détruire les œuvres du diable, et j'ai manqué pauvreté, maladie et mort, parlant de mort spirituelle, notre séparation d'avec Dieu. Il est marqué en Luc 4, Jésus lit les Écritures, il entre dans le temple, et il dit, l'Esprit du Seigneur, Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Tout le monde dit bonne nouvelle? Aux pauvres. C'est la première chose qu'il dit. Il a une bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer être une bonne nouvelle pour les pauvres? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? C'est que vous n'avez pas besoin de rester pauvre. Wow! Ah oui! Là où Jésus-Christ a été prêché, la pauvreté s'envole. Amen! Il faut que nous prêchions très clairement que Dieu ne veut pas la pauvreté. Il veut la bénédiction. Amen. Le problème, quelquefois, c'est qu'au lieu de distribuer et de bénir et de pratiquer la générosité, les gens, en s'enrichissant, sont devenus égoïstes et jaloux et ils convoitent. Amen. Dieu veut vous enrichir, mes amis, pour que vous soyez une plus en plus grande source de bénédiction. Mais c'est la première chose, une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs de la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus est venu. Amen. Quelle est votre réponse à cette bonne nouvelle? Parce que c'est très beau de voir ça. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus est venu faire dans ma vie? Autre chose que cela ou la même chose? Allô? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand c'est votre anniversaire, qu'est-ce que vous faites? Vous offrez des cadeaux aux autres? C'est vrai? C'est une sœur jumelle là, d'accord? Heureusement que tu te rappelles ton anniversaire, n'est-ce pas, pour donner à ta sœur, hein? Pourquoi il y a toujours un clown dans chaque groupe, ouais? Toujours un comique, n'est-ce pas? Toujours, toujours. Ouais? Peu importe où vous êtes. Ouais? Le seul anniversaire où tout le monde s'offre des cadeaux, c'est Noël, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais je veux que nous repartons cette liste et on dit, voilà pourquoi Jésus vient dans ma vie. Amen. Pas seulement sur terre, il est venu pour nous sauver. Amen. Hallelujah. Il est venu pour accomplir la volonté du Père dans notre vie. Amen. Il est venu pour nous donner une vie en abondance. Hallelujah. Vous pouvez vous réjouir un petit peu plus, vous savez. Encore, j'ai l'impression que je prêche mieux que vous répondez. Oui. Il est venu pour nous montrer le chemin. Amen. Il est venu pour vous montrer le Père. Hallelujah. Et il est venu pour détruire les œuvres du diable, la pauvreté, la maladie et la mort. Quelqu'un dit Hallelujah. C'est ce que Jésus veut faire chez vous. Amen. C'est pourquoi nous célébrons Noël. Pas seulement que Jésus est venu sur terre, mais Jésus vient dans le cœur des hommes et des femmes. Amen. Hallelujah. Est-ce qu'il est venu dans votre cœur? Hallelujah. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? On va faire une déclaration de Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'accord? Je l'ai manqué ici. Quelqu'un dit, on n'aime pas dire les choses si on ne sait pas ce qu'on va dire. Donc là, tu peux le lire, après, il faut le dire. Mais je ne sais pas, je ne me fatigue pas de le dire. Et de le dire ce que je crois. Parce que ce que je crois et ce que je déclare, ça devient une réalité dans ma vie. Donc dis ceci avec moi. Avec moi, tu peux le faire? Ou après moi? Vous préférez après? Avec? Ok, 1, 2, 3. Je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le 3e jour. Je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Je crois et je suis sauvé. Et encore? Je reçois Jésus dans ma vie et dans mon cœur, qu'il me soit fait selon sa parole. Amen. Hallelujah. Je veux prier pour vous. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que nous puissions avoir une réalité aujourd'hui de Noël, de pourquoi tu as envoyé Jésus dans nos vies. Et Père, que nous puissions répondre comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Oh, merci Jésus. Merci que ta parole s'est faite chair, Seigneur. Merci que ta parole aujourd'hui, les promesses que tu nous as données, peuvent devenir réalité dans nos vies. Ta promesse de guérison, ta promesse de délivrance, ta promesse de protection, ta promesse, oh hallelujah, de provision. Merci Seigneur que ta parole devient chère dans notre vie pour que toute l'humanité puisse voir, tous les gens autour de nous puissent voir tes bénédictions et qu'on puisse partager ces bénédictions avec les autres. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur.